Les Essais, livre 2, chapitre 30, d'un enfant monstrueux. Ce récit sera très simple. Je laisse au médecin le soin de discourir sur la question. Je vis avant-hier un enfant que deux hommes et une nourrice, qui se disaient être le père, l'oncle et la tante, promenaient pour le montrer et en tirer quelques sous, à cause de son étrangeté. Il était d'une forme ordinaire, se donnait sur ses pieds, marchait et gazouillait à peu près comme les autres enfants de son âge. Il n'avait pas encore voulu se nourrir autrement qu'en têtant sa nourrice, et ce qu'on essaya devant moi de lui mettre dans la bouche, il le mâchait un peu et le rendait sans l'avaler. Ses cris semblaient bien avoir quelque chose de particulier. Il était âgé de 14 mois tout juste. Au-dessous des tétins, il était attaché et collé à un autre enfant sans tête, dont le canal médulaire de la colonne vertébrale était bouché et le reste intact. Si l'un de ses bras était plus court, c'est qu'il lui avait été brisé par accident à la naissance. Ils étaient accolés, face à face, comme si un enfant plus petit voulait en embrasser un autre plus grand. La région par laquelle ils étaient attachés n'était que de 4 doigts environ, de sorte que si on retournait l'enfant incomplet, on pouvait voir en dessous le nombril de l'autre. La suture se situait entre les tétins et le nombril. On ne pouvait voir ce dernier sur l'enfant incomplet, mais on voyait bien tout le reste de son ventre. Ainsi, ce qui n'était pas attaché, comme les bras, le fessier, les cuisses et les jambes de cet enfant incomplet, demeurait pendant et ballottant sur l'autre et lui descendait jusqu'à la mi-jambe. La nourrice nous a dit aussi qu'il urinait par les deux endroits, et les membres du deuxième étaient nourris et vivants, et dans le même état que ceux du premier, sauf qu'ils étaient plus courts et plus menus. Ce double corps et ses membres différents, se raccordant à une seule tête, pourraient bien constituer pour le roi un présage favorable, montrant qu'il maintiendra sous sa loi l'union des diverses pièces et parties de notre état. Mais de peur que les événements ne viennent le démentir, mieux vaut le laisser faire d'abord, car il n'y a rien de mieux que de deviner les choses déjà faites. Quand les choses ont eu lieu, on leur trouve quelque interprétation qui vérifie ce qui était prévu, Cicéron. De la même façon, disait Épiménide, qu'il devinait à reculons. Je viens de voir dans le Médoc un pâtre de 30 ans environ, qui ne présente pas de partie génitale. Il a seulement 3 trous par où s'écoule sans cesse de l'eau. Mais il a de la barbe, éprouve des désirs et recherche le contact des femmes. Ce que nous appelons des monstres ne le sont pas pour Dieu, qui voit dans l'immensité de son œuvre l'infinité des formes qu'il y a comprises. Et on peut bien croire que cette forme qui nous étonne a quelque chose à voir avec une autre appartenant au même genre, inconnue de l'homme. De sa parfaite sagesse ne peut rien venir que de bon, de normal et de régulier. Mais nous n'en voyons pas les rapports et les relations. Cicéron écrit « Ce que l'homme voit fréquemment ne l'étonne pas, même si la cause lui en est inconnue. » Mais devant quelque chose qu'il n'a jamais vu, il pense à un prodige. Nous appelons contre nature ce qui va contre nos habitudes, et pourtant rien n'existe qui ne soit selon la nature, quoi que cela puisse être. Que cette raison universelle et naturelle chasse de nous l'erreur et l'étonnement que la nouveauté nous apporte.